Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. On va faire l'accent en anglais aujourd'hui, en américain même, Super Laser Punch. Et on va parler aujourd'hui de Black Panther, Wakanda Forever. Ou, merde, comment ils disent au Québec? Viens m'aider tout de suite,
Johan. Pour toujours. Wakanda pour toujours, je sais
non,
pas.
Non, c'est longue vie au Wakanda. Longue vie au Wakanda, au Québec. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja. Il y a à côté de moi, juste ici, malgré sa nuit difficile, Johan, qui va m'accompagner dans cet épisode. C'était compliqué avec les enfants, tout ça, maladie, mais tu es là, fidèle au poste, tel un membre des Dora Milager qui n'abandonne pas son devoir. Et vous savez que cette émission, c'est Super Laser Punch, où on parle essentiellement de trucs Marvel, mais on fait aussi un petit peu de Star Wars, de DC, de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est en plein dans le Marvel, puisque on a vu Black Panther, Wakanda Forever. Avant ça, je vais quand même te dire bonjour, Johan. Comment ça va donc?
Bonjour. Écoute, je survis. À la fois, je me réveille, mais en même temps, j'ai dormi une heure, donc je vais peut-être
une heure, pas me réveiller longtemps.
Ouais, c'était dur, mais écoute, c'est les vacances en fait, donc là j'ai un long week-end et à lundi pour me remettre, ça va bien se passer.
C'est le meilleur moyen de le commencer du coup, dis-moi. Bon, tu as passé la nuit sur Marvel Snap,
voilà. Tu as au moins de quoi voilà, j'ai joué Black Panther.
Très bien. Alors, Black Panther, Wakanda Forever, je ne sais même pas si on a besoin d'expliquer de quoi il s'agit. On va faire une petite partie sans spoiler, et puis une partie ensuite avec spoiler, évidemment. Donc, première partie, vous pouvez rester même si vous ne l'avez pas vue. Et ensuite, on vous préviendra quand il y a les spoilers. On vous dira, bien sûr, très clairement. Donc, vous pourrez passer à un autre podcast que vous voulez écouter. Mais je ne pense pas qu'on a vraiment besoin d'expliquer beaucoup sur Wakanda Forever. Il est réalisé par le réalisateur du premier Black Panther. Mais évidemment, l'événement marquant de cet épisode, c'est qu'entre le premier et le second, l'acteur principal, Chadwick Boseman, est malheureusement décédé. Et du coup, le personnage a disparu. Et c'était une grande question sur la manière dont ils allaient gérer, au-delà de la tristesse évidente de la communauté, comment ils allaient gérer la disparition du rôle-titre. Le Black Panther, c'est lui. Et du coup, ça fait poser beaucoup de questions. Il y a eu aussi un tournage un peu compliqué avec un des membres du cast. Le tournage a eu lieu, bien sûr, pendant la pandémie. Et un des membres du cast ne voulait pas se faire vacciner, ce qui a posé beaucoup de soucis. Je ne sais plus qui c'était spécifiquement, mais bref,
Laetitia Wright. Ouais.
C'est Laetitia Wright qui joue la sœur. Shuri, ouais. Voilà, la sœur de T'Challa. Et donc, évidemment, ça a beaucoup compliqué parce que c'est, à vrai dire, le personnage principal du film. Mais au final, ils ont réussi à se débrouiller. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le contexte?
Oui, le film en fait avait été écrit avec Chadwick. Le film était il était prêt, quasiment prêt à démarrer en fait. Et du coup, ils ont dû vraiment s'adapter en très très peu de temps. Et puis après voilà tout ce que tu as expliqué derrière. Mais du coup, effectivement, les questions qu'on se posait, c'était surtout effectivement de savoir à quel point ce deuil de l'acteur allait transparaître aussi en fait dans le deuil du personnage. Et puis au-delà de ça, moi j'avais vu qu'une seule première bande-annonce.
Ouais, pareil. Ouais. On est très anti-spoiler ici, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre du tout. Et moi, je ne sais pas à quoi m'attendre non plus de ton avis, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. On a vu le film chacun une fois, hein, donc on a peut-être pas tout
vu. Je t'ai vu tweeter.
Ah d'accord, donc tu sais. Donc moi, je ne sais pas ce que tu as pensé. Je suspecte quand même un petit peu, mais du coup, bah, je te laisse la parole. En termes généraux, sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Un dernier petit élément de contexte, c'est que c'est le dernier film de la phase 4. La phase 4 qui a été peut-être un petit peu chahutée dans le MCU. Et Lord Kevin a annoncé il y a quelques mois que le Wakanda Forever venait conclure la phase 4 et donc le prochain sera le début de la phase 5. Et c'est un élément important aussi peut-être dont on pourra parler. Mais donc, Johan, qu'as-tu pensé de Wakanda Forever ?
Alors bah j'ai voilà, comme tu t'en doutes, moi j'ai énormément aimé. Alors j'ai été pas mal touché par. Enfin voilà, je trouve que c'est un film qui c'est un blockbuster quand même, c'est un truc très très grand public avec un cahier des charges, etc. Mais malgré ça, et il est présent, hein, tout ça c'est vrai, malgré ça, il y a un espèce d'espace qui est créé pour justement autre chose. Et c'est peut-être ce qui fait aussi que le film est très très long. Mais du coup, moi vraiment, j'ai adoré les dynamiques entre les personnages. J'ai adoré l'antagoniste que je trouve vraiment extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est une des plus grosses réussites du MCU, ce personnage-là, depuis toujours quasiment.
Tu veux dire c'est une réussite parce qu'il n'était pas facile à faire et il est très réussi, ou c'est juste qu'il est super bien tout court?
C'est tout ça en fait. C'est justement, cette adaptation n'était pas forcément évidente. Ils ont un parti pris que je trouve génial. Ils ont vraiment recréé un truc qui, voilà, moi je trouve qui est plus intéressant
que
dans les comics. Ouais. Et maintenant, j'ai trop trop hâte de voir comment il va s'imbriquer dans le reste de la saga. Sachant que c'est un personnage quand même assez fort, donc c'est toujours un peu compliqué à gérer ce genre de puissance. Mais bon, en toute état de cause, là, ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à en refaire quelque chose, quoi. Et puis, il y a des problèmes dans le film, hein. Je ne veux pas dire que c'est un film parfait. Ça reste un film qui est quand même très long et qui a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se doit de mettre en avant, de présenter... Mais voilà, je trouve que tout ça passe quand même en second plan par rapport à tout ce que le film apporte, quoi.
D'accord.
Avec cette musique, moi la musique, j'ai pas encore cherché l'OST, mais je trouve que elle apporte énormément cette musique. En fait, j'ai l'impression que je deviens fan de musique à chaque épisode. Là, je parlais d'Andor et sa musique, et là c'est pareil. Je trouve qu'il y a une OST vraiment en feu, quoi.
Ouais. T'es resté très général, je vais peut-être moi être un tout petit peu plus précis, mais encore une fois sans spoiler. Moi je suis assez émerveillé par le film aussi. Je disais, tu évoquais ce que j'ai dit sur Twitter, je l'ai beaucoup aimé, et je disais que c'est à mon sens le film le plus réussi du MCU de la phase 4. Et puis je me suis révisé en disant, phase 4, le meilleur, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, c'est l'un des meilleurs films du MCU tout court. Alors, l'un des meilleurs films, je ne sais pas le meilleur, mais je dirais dans le top 10 sur les 30 films qu'on a maintenant, je dirais qu'il est dans le top 10 pour moi. Facilement, et peut-être même plus haut, parce qu'il fait quelque chose qui nous manquait dans la phase 4, c'est qu'il se concentre sur les personnages, il se concentre sur la dramaturgie de l'intrigue, plus que sur des caméos un petit peu ridicules et un humour qui a toujours été présent dans le MCU, hein, mais qui était devenu envahissant. Et là... comment dire ? C'est-à-dire que sur les films du MCU, s'il n'y avait qu'un seul des problèmes, ça pourrait être ça pourrait me plaire tout de même. Mais entre la légèreté excessive des scénarios un petit peu tirés par les cheveux souvent et des caméos qui semblent pas nécessaires, au final, ça affaiblit la qualité des films, je trouve. Et là, c'est pas qu'il n'y a pas des personnages annexes qui viennent se greffer, mais ils sont tous judicieux et bien traités et ne viennent pas cannibaliser l'intrigue principale qui est l'étude des problèmes des personnages et la manière dont ils réussissent ou non à les surmonter. Le cœur du MCU, là où il a été le meilleur, ça a toujours été quand les personnages avaient une personnalité forte et des problèmes qu'ils surmontaient et dont la nature super-héroïque de leur évolution était presque un accessoire, je dis presque, hein, bien sûr c'est un élément super important, mais presque un accessoire à ce qui se passait dans l'histoire. Quand on regarde Iron Man, quand on regarde Captain America et d'autres, je pourrais en mentionner d'autres, c'est des personnages qu'on adore parce qu'on aime les personnages, pas parce qu'on aime le fait qu'ils font équipe avec d'autres super-héros et qu'ils vont casser la gueule aux super-méchants. Et là, on est vraiment dans ce... alors, ça me fait un petit peu mal de le dire, mais dans ce MCU un peu old school, où le film, comme tu le disais, n'est pas parfait, mais où on suit les personnages avec leurs difficultés. Et c'est ça qui est de très, très loin... l'élément principal du film. Et tout vient s'inscrire dans dans ce cheminement. Même les conflits avec les méchants, ça vient nourrir et alimenter ce parcours. Et donc là, le personnage principal, du coup, comme on le voit sur le poster, hein, ça on peut le dire, c'est Shuri. Et on suit donc son deuil, finalement, de son frère, parce que le film ouvre avec ça. On s'en doute bien, hein, Black Panther, Chadwick Boseman est mort, donc le personnage est mort. Et c'est l'élément central du film. Et tout le film est le deuil, en fait. C'est ça. Du début à la fin, c'est est-ce qu'on va réussir à faire son deuil. Et du coup, c'est une question qui est très loin de la problématique des super-héros, de la même manière que dans les autres films de super-héros que j'apprécie, ça parle toujours d'autre chose. Donc je trouve que c'est très bien traité, que Ryan Coogler a été... on parlait de Andor il y a la semaine dernière, et on va refaire un épisode donc pour la conclusion de la série Andor qu'on vous encourage à regarder vraiment très chaleureusement. Et l'une des choses qu'on disait, c'est qu'ils ont réussi à se sortir de ce fanservice un petit peu, oppressant dans les films et dans les séries, surtout dans les séries Disney, avec Andor. Et bien là, on est vraiment dans la même configuration où Ryan Coogler, on a l'impression qu'il est allé voir Lord Kevin et lui a dit « Bon, phase 4, ça suffit les conneries ». Moi, je veux faire un film, quoi. Je veux faire un film sérieux et on n'a pas besoin de... C'est pas qu'il colle pas à la formule. Il est complètement dans la formule Marvel. Il y a de l'humour, il y a des personnages annexes, il y a des super-héros différents, il y a de l'intrigue qui fait évoluer les trucs pour le MCU en général, mais il le traite avec retenue. Voilà, c'est ça qui est important. Et du coup, on a un shift complet par rapport au reste de la phase 4. Et moi, en conclusion de mon introduction, ce que je dirais, c'est que c'est le premier film de la phase 4 où je peux me dire, je peux le recommander à ma femme sans aucune hésitation. Je pense qu'elle va l'apprécier. Elle avait beaucoup aimé le premier Black Panther, qui était pour moi moins bon que celui-ci. C'est un film qu'on peut recommander, comme les bons films du MCU, qu'on peut recommander à quelqu'un qui n'est pas fan de super-héros. Alors que tout le MCU, même dans les trucs que j'ai aimés, toute la phase 4 du MCU, c'était des trucs que je ne recommanderais pas à quelqu'un qui n'aime pas les super-héros. Ce n'est pas des films qui dépassent leurs conditions de films du MCU, qui sont parfois sympas, qui ont des moments intéressants. Mais là, je suis sans hésitation à dire que c'est un bon film du MCU qui est en décalage complet avec le reste de la phase 4, je trouve. Donc, Donc voilà, moi, je l'ai trouvé super bien, quoi. Ça me redonne foi, comme Andor, ça me redonne foi en Disney. Ils savent faire des trucs, en fait. Je suis complètement... Du coup, alors ça, c'est peut-être une exception, mais du coup, mon espoir dont on parlait pour les phases 5 et 6, tout à coup, là, je suis... Oh, peut-être qu'ils vont pouvoir revenir, tu vois. C'est possible.
Et du coup, j'espère que c'est Coogler qui s'occupera du fameux Avenger, le dernier qui clôturera la saga,
ouais,
dont on ne connaît pas le réalisateur.
Oui,
parce que je trouve qu'il fait vraiment un travail assez formidable, en fait, au sein du MCU, quoi. Comme tu l'as dit, effectivement, il y a quand même plein de... En fait, quand on parle de cahier des charges, il y a principalement, oui, nourrir le reste de la saga avec l'introduction de nouveaux persos qui auront leur série dédiée, avec des caméos de persos qui ne sont pas essentiels à l'intrigue, voire qui sont même un petit peu en décalage avec ce qu'on essaie de raconter. Mais même ces éléments-là, il arrive à les intégrer de façon quasi naturelle, en fait. C'est-à-dire que tu ne te dis pas au cinéma « Ah oui, d'accord, ils veulent amener un nouveau truc ou ça mène à autre chose. » Non, non. La présence des personnages est justifiée, on va dire, raisonnablement. Parfois même mieux que raisonnablement. Et du coup, ça, voilà, y a une impression quand même globale que c'est cohérent, que ça a été fait avec grand soin, en fait, tout simplement. Il n'y a pas eu... voilà, c'est...
À aucun
c'est
moment
sûr que
tu
moi,
dis...
on a...
à aucun moment tu dis qu'ils ont écrit le truc en se disant « Ouais, bon, ok, ça passe, quoi. » Non, ils ont... Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit l'histoire. Le script, ils l'ont écrit à deux, mais c'est lui qui a déterminé l'histoire. Et à aucun moment tu dis... ils ont dit « Bon, ok, on va le faire comme ça. C'est un peu couillon, mais c'est pas grave, quoi. » Et donc, bref, je sais pas si on a plus à dire sans spoiler. Peut-être... Est-ce qu'on parle... c'est vraiment pas un spoiler, hein. Wakanda, comme le premier, c'est presque un film militant par la nature de l'histoire qu'il raconte, dans le sens où bah, c'est un film où c'est une nation africaine, et dans la nation africaine, bah, il y a des Noirs, il y a quasiment que des Noirs. Et c'est encore plus que dans le premier, un truc qui m'a marqué et qui fonctionne. C'est un film où l'Occident n'est pas hyper important, où ils sont un petit peu un antagoniste, ils sont un catalyste pour l'histoire, mais on passe pas beaucoup de temps en Occident, un petit peu, et il y a des éléments intéressants, mais et c'est des trucs qu'on voit jamais, quoi. Et ça fonctionne super bien. On est comme dans le premier, mais le premier avait cette fin en festival d'images de synthèse raté qui, moi, m'avait vraiment sorti du truc et qui... bon, les motivations... Enfin, bon, la fin ne m'avait pas plu dans le premier. Là, j'ai trouvé que c'était entièrement réussi et j'ai été pas surpris, mais comme on ne le voit jamais en des films occidentaux qui ne sont pas centrés sur l'Occident, ça m'a un petit peu marqué, ça m'a surpris, quoi. Je l'ai remarqué, je l'ai noté. Et je voulais le mentionner parce que c'est complètement... ça passe complètement super bien, quoi. Mais...
Bah, ça en fait effectivement un film important en soi, en fait, juste pour ça, en fait. Je veux dire, même si ça soit bien, pas bien, finalement, voilà, apporter ce type d'imagerie à l'intérieur du cinéma hollywoodien et encore plus de Disney, voilà, c'est important en soi. Et c'est aussi une
bon, après, c'est que
laquelle...
des Américains qui l'ont fait, c'est une production américaine.
Bien sûr.
Mais quand même.
Non, je veux dire, c'est vraiment en termes d'imagerie, c'est quasiment du jamais vu voilà, dans le cinéma américain, justement, en tout cas en termes de blockbuster. Quoi. Donc,
ouais.
Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est un film, surtout principalement le premier, voilà, qui est,
bah, dans la continuité, quoi, du premier.
Qui est très important pour moi. Et celui-là, au-delà de ça, au-delà justement de cet aspect-là, il y a aussi le fait que les personnages centraux sont des femmes. Mmh. Ce sont quasiment que des femmes qui font avancer tout ça. Et je trouve que ça apporte une couche supplémentaire, justement, dans cette idée-là, quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment vu dans le MCU jusque-là.
C'est marrant, tu sais, j'ai même pas vraiment remarqué, en fait. Je m'en rends compte quand tu me le dis maintenant que c'est que des femmes. Mais c'est vrai, c'est quasiment que des femmes, quoi. Bon, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, malgré la rage que ça va artificiellement faire naître chez les rageux, dont on ne parlera pas plus que ça. Donc immense réussite, et pour moi, ça me redonne l'espoir dans un MCU que j'adorerais. Parce que, évidemment, que je prends plaisir à voir la plupart des films du MCU, mais j'y prends un plaisir de geek un petit peu de niche, quoi. Là, c'est le plaisir que je prenais du MCU en me disant, putain, c'est des super films de pop culture, juste des très bons films, quoi. Très bons films tout court. Et là, on est en plein dedans. Bon, Johan, est-ce qu'il est temps de passer à la partie spoiler ?
Allons-y.
Alors, il faudrait une chanson spoiler. C'est les spoilers, c'est les spoilers, maintenant c'est les spoilers, il faut partir si vous n'aimez pas les spoilers. Par quoi on commence dans les spoilers ? L'ouverture, alors, je l'ai dit, mais ouais. On peut en parler un peu plus.
L'ouverture au logo, fanfare silencieuse. Du MCU avec le logo complètement de Chadwick, quoi, qui met bien dans l'ambiance avant l'enterrement, quoi. Donc c'était, je sais pas, ça me paraît évident de faire ça, mais en même temps, j'avais été un peu, voilà, un peu. J'ai envie de pleurer.
Est-ce que ça ouvre sur Shuri qui essaye de le sauver et après il y a le logo ou pas ? C'est ça. Hein.
Je crois que c'est ça. Hein, c'est d'abord.
Ouais. C'est impossible de pas être affecté, quoi. C'est impossible. Je crois qu'il faut être... Enfin, je sais pas comment il faut vivre sa vie pour pas que ça fonctionne un petit peu sur toi, quoi. Le fait... Là. Et ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne complètement dans le film, et même le fait qu'elle essaye de créer la heart-shaped herb,
ouais,
l'herbe en cœur, là, qui sert complètement l'histoire. Et au final, dans l'histoire, ça va s'intégrer. Mais le désespoir de ne pas avoir réussi à le faire au moment où son frère était en train de mourir, tu peux pas ne pas en être affecté, quoi. Et j'ai été, je sais pas pourquoi je sais pourquoi, le fait que Laetitia Wright ne voulait pas se faire vacciner, tu vois, ça me gêne un petit peu, tu vois, je me dis c'est même pas une bonne actrice en plus, et en plus elle est moche, tu vois, elle est bête, et tu la vois et elle joue tellement bien, elle est parfaite dans son rôle. Tu vois, il faut séparer l'art de l'actrice, peut-être, mais elle est super. Et quand elle commence son truc, et dans cette scène, elle te le vend, mais à fond. Donc, quand après, tu vois le logo arriver, j'étais un peu genre... Il faut... Pauvre Chadwick, tu sais, pauvre T'Challa. Et pauvre Wakanda, quoi. Tu es complètement affecté par le truc. Bref. J'ai l'impression que ça a marché sur toi aussi.
Ouais, c'est ça. Ouverture, voilà. Enfin, le MCU est bon pour ça, quoi. Ouverture vraiment super réussie. Et puis après, moi, je retiens surtout, effectivement, tout le rituel, notamment que j'ai trouvé vraiment sublime. La marche en blanc avec le tag... de T'Challa sur le mur. Et puis, pareil, l'actrice qui joue la mère... Je la trouve vraiment incroyable, en fait. Je n'avais pas forcément... je la connais pas, d'ailleurs, je crois pas.
Angela Bassett ?
Ouais, c'est ça.
Elle est hyper connue, ouais. Angela Bassett, quand même.
Je sais pas trop.
Elle est hyper connue, je pourrais pas te dire le nom de qu'elle a fait.
En tout cas, vraiment, super convaincant. Et parce que j'ai pu comprendre, c'est ce qu'il racontait, c'est que c'était bizarre à tourner, quoi. Parce que du coup, c'était quasiment... Ils étaient quasiment en train de faire l'enterrement de leur pote.
Ouais.
Mais sous les caméras et tout ça, donc ça devait être assez, assez émouvant, et je pense que cette émotion, elle transparaît un peu à l'image, quoi.
Ouais. C'est sûr. Un an plus tard, on trouve... c'est à ce moment qu'on voit l'attaque...
En parallèle de l'audition...
C'est ça, oui.
C'est quoi, à l'ONU ou pas loin ?
Oui, c'est une sorte d'ONU.
Du MCU.
Où Attends, c'est ils ont essayé... Oui, ah non, c'est l'attaque de la base wakandienne où ils ont du vibranium par des mercenaires clairement employés par le gouvernement français qui, du coup, se retrouvent accusés par la reine Ramonda d'avoir...
Il faut souligner que Marvel a trouvé des gens qui parlaient français ouais. avec un accent français.
Ouais, ils ont trouvé
bon,
des
français. Ah bon,
ils sont allés, ils ont trouvé des gens, sans doute que ces gens sont des expatriés français au Canada, parce qu'on sait qu'ils piochent au Canada généralement, au Québec sans doute, mais oui, donc ils en ont trouvé, ça c'est appréciable. Donc on a toute cette première partie où, bon, qui est bien construite aussi, et puis ensuite... On a le moment où la CIA essaye de trouver du vibranium au fond des océans et on voit la première intervention, la première apparition de Namor et son peuple des alors on dit pas que c'est l'Atlantis du coup, je me souviens plus du nom Maya
Talokan.
Talokan, ouais. Ouais, des Talokanais, des Talokanois qui attaquent qui font cette attaque donc de la base maritime avec les sirènes enfin les chants
ouais,
de sirènes.
Moi j'ai trouvé ça trop bien. Ouais. Franchement, on va revenir rapidement sur justement sur l'audition à l'ONU et puis l'attaque. Enfin, je veux dire, là, on a de la politique et justement encore l'évocation du fait que. La conséquence internationale qu'a la mort de T'Challa. J'ai trouvé cette scène vraiment formidable, je veux juste le rementionner. Et puis, ouais, effectivement, pareil, hein, cette attaque du bateau de la CIA par du coup, on ne sait pas quoi au début et tout ça. Et avec alors, cette histoire de chant des sirènes, je m'y attendais pas du tout et je trouvais ça assez sympa. Et puis, il y a un twist un petit peu horreur dans l'approche de filmer les choses et tout ça. Vraiment, j'ai trouvé ça. J'aurais bien aimé qu'on reste sur un ton un peu similaire, mais parce qu'en fait, tout le moment où on ne connaît pas encore ces gens-là, ils sont vraiment montrés comme un truc un petit peu horrifique avec des choses. Et cette introduction, elle marche vraiment du tonnerre. Hein.
Ouais, je trouve que c'est effectivement un super bon moyen de poser le peuple de Namor en menace. Et en menace, ce qui est fort avec la confrontation entre Talokan et le Wakanda, c'est que du fait de la mort de T'Challa politiquement et dans sa position dans le monde, le Wakanda doit revenir un petit peu en retraite. Et du coup, il est affaibli, un petit peu affaibli, mais surtout, ça pose Talokan comme une puissance qui peut menacer le Wakanda. Alors que jusque-là, le Wakanda était complètement inassaillable. Bon, j'avance peut-être un petit peu dans l'histoire, mais on sent qu'il y a un truc où on se dit « Oula, là, c'est une autre population bizarre cachée et il y a une sorte de rival, quoi. » Et l'incertitude, le deuil et l'absence de direction de Shuri et font que Ramonda, elle essaye de tenir les choses comme elle peut, mais le Wakanda, ils ne savent pas où ils vont. Il n'y a pas de leader clair, fort. Enfin, si, il y a la reine Ramonda, mais on sent bien qu'elle n'est pas aussi déterminée que le pays. Elle n'est pas la femme de la situation. Elle tient, elle est forte, mais... on a l'impression qu'il y a des dissensions au sein du pays, etc. Politiquement, ça va pas dans le bon sens. Et du coup, ça met le pays dans une situation qu'on n'a jamais vue dans le MCU. Et c'est hyper intéressant d'avoir réussi à les mettre dans cette position, je trouve. Donc l'attaque avec la machine qui détecte le vibranium, hyper intéressante. Et du coup... la suite, c'est que le Wakanda essaye de savoir ce qui se passe avec cette histoire de... Oui, parce que... Pardon, vas-y.
Oui, j'allais dire, en fait, du coup, c'est juste que... donc, ils enlèvent... Enfin, ils détruisent complètement ce truc-là, mais effectivement, comme c'est lié au vibranium, le Wakanda est assez rapidement accusé d'avoir été voilà, d'être les auteurs de cette attaque-là. Donc ça, c'est d'une part, hein, vis-à-vis du monde, mais aussi côté justement Namor. Lui, il vient voir le Wakanda en disant voilà, c'est de votre faute que les gens commencent à chercher du vibranium. Là, fallait continuer à rester caché. Et du coup, pour vous en tirer, voilà, si vous voulez pas être fâché avec nous, il va falloir aller récupérer la scientifique capable de faire ce détecteur qui est très dangereux pour nous et de nous l'amener, quoi.
Et il n'y a qu'un seul détecteur de vibranium. Tout le monde pensait que c'était impossible de créer un détecteur de vibranium. Et clairement, ils en ont obtenu un. Et on a Namor qui vient prévenir Ramonda et Shuri et les menacer du même coup sur la plage. C'est la première fois qu'on voit Namor avec ses petites ailettes sur les...
Oui,
sur les...
alors,
vas-y.
Figure-toi que j'avais jamais remarqué que Namor avait des ailettes sur les pieds.
Ah bon ?
J'ai regardé dans les comics rapidement après, et en fait, il en a toujours eu, et j'avais jamais vu, voilà, j'avais jamais fait gaffe.
C'est marrant parce que c'est le truc dont j'ai trouvé, surtout, ça change un peu après, mais au début, j'ai trouvé que ça marchait pas du tout. Les ailettes, souvent, ce que fait bien le MCU, c'est rendre des trucs ridicules, pas ridicules. Et ben là, c'est ridicule dans les comics, c'est ridicule dans le film.
Mais on s'y fait, hein.
Alors,
non.
Je vais peut-être faire un petit court-circuit vers la suite. Au début, cette scène-là, je l'ai trouvée complètement ridicule. Je me dis, enfin, les petites ailes d'ange là, débiles, j'ai trouvé ça ridicule.
D'ange, c'est gentil, hein, on dirait quand même des ailes de pigeon, hein. Mais...
Ouais. Non, mais il y a pas des ils ont pas aussi des anges sur les chevilles, des ailes sur les chevilles ou peut-être pas, je sais plus, je suis pas très religieux. Mais le truc, c'est que là où ça me l'a vendu, c'est dans la bataille au Wakanda, quand c'est bien dans celle-là où Namor dit bon, c'est fini les conneries maintenant, je vais tous vous expliquer qui je suis, quoi. Et là, il y a une scène où il se bat contre toutes les forces du Wakanda ensemble, et tu te dis, ok, ça le vend, ça fonctionne, et tu oublies presque qu'il vole grâce à ses ailettes, et c'est même genre, ah ouais, non, mais les ailettes, ça fait le job, quoi. Et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais ça me l'a vendu ensuite. Mais là, sur cette scène-là, j'ai trouvé ça... Un autre truc sur Namor, il n'est pas... super musclore mastoc comme les Captain America et les Thor et tout ça. Il est, alors c'est pas qu'il est, tu vois, qu'il est pas en forme, mais ça a presque l'air d'être un mec normal que tu prends. Tu te souviens, je sais plus si on en parlait, dans les films des années 80, les leading men super forts, ils étaient juste. Tu vois, un peu, tu sens qu'ils faisaient une heure d'exercice tous les jours, quoi. C'était pas des bodybuilders qui faisaient ressortir leurs muscles. Et lui, il est comme ça. Et ça fait presque bizarre de voir un mec normal dans le MCU, alors que tu sens, tu vois, il est torse-poil, il est en maillot de bain tout le temps. Je me dis, ça a dû être une discussion, tu vois. Est-ce qu'il faut entraîner, je sais plus comment s'appelle l'acteur.
L'acteur.
On va le retrouver. Tic-tac-tac. José Tenor Huerta Mejía. Ils ont dû se demander, est-ce qu'on doit l'entraîner, tu vois, lui faire 3 mois de bodybuilding pour qu'il soit super musclé ou pas. Ils ont dû décider que non. Et du coup, c'est un peu bizarre que ce soit un mec normal. Mais oui, il est ensuite super fort dans ses combats. Et oui, du coup, il fait fonctionner le truc. On parlera peut-être de l'origine de Talokan juste après, mais inquiétés par cette histoire, Shuri et Okoye vont aux États-Unis parler à Everett Ross dans une scène qui n'a pas dû être tournée ensemble. Hein. Tu sens qu'ils ont tourné les deux parties de la scène sans les acteurs et les actrices. Qui se regardaient, parce que t'as vraiment des champs contre champs où tu vois rien, t'as même pas genre une accroche de la silhouette de l'autre, ça fait un petit peu bizarre. Et donc, ils vont chercher Riri Williams. Tu connaissais Riri, toi, avant ? On en avait un petit peu parlé,
ouais.
Je crois. Mais...
Ouais, je connaissais un petit peu le personnage, et du coup, bah... Je trouve ça, ce moment-là, vraiment super bien, là, justement, à l'université, où tu découvres un petit peu sa personnalité, le fait qu'elle se fait payer pour faire le boulot des autres, etc. Je trouve cette intro du personnage assez chouette. C'est là où il y a tout, à peu près tout l'humour du film, hein, c'est ces séquences-là avec Okoye qui est habillé en veste de costume, là, les interactions avec...
Qui sort des années 80.
Ouais. Avec, voilà, elle qui va se défendre, et puis voilà. Donc, je connais pas super bien le perso, mais oui, j'avais déjà lu un petit peu certaines choses autour de ce personnage-là. Donc, c'était une des grosses attentes que j'avais. Alors, ça reste une petite déception. C'était une des grosses attentes. Je savais que le personnage allait être présenté, en fait, dans ce film-là. Et bon, je grille un petit peu pareil sur la suite, mais je trouve que ça va un peu vite, comment elle fait son armure finale, là.
Ah ouais?
Ressemble à un Gundam, enfin un truc un petit peu trop pas assez bricole à mon goût, en fait.
Ouais. Moi j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, justement, parce qu'elle a son armure de base qui ressemble à une sorte d'exosquelette, tu vois, quand il s'enfuit du FBI, sur lequel elle travaille Et elle travaille depuis des années. Elle dit même, ouais, il y a des chaînes YouTube complètement dédiées à des gens qui ont cru me voir voler au-dessus de la Californie.
Oui.
Et non, c'est Massachusetts, au-dessus du Massachusetts. Et ensuite, avec les ressources du Wakanda, tu vois, bon, bah, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'elle a mis une belle armure dessus, tu vois. C'est pas quelque chose. Et au contraire, moi, j'avais peur, en fait, qu'elle nous fasse un costume d'Iron Man, super slick, super fin, comme Iron Man, dès le début. Et je me disais, ah ouais, est-ce que ça, ils vont réussir à faire passer ça? Parce qu'en fait, dans les comics, bon, d'une part, Riri Williams, elle a genre 14 ans, et d'autre part, elle a son costume d'Iron Man très très vite, et ça ressemble, bah, c'est une Iron Man, enfin, c'est Iron Heart qui a un truc qui ressemble à Iron Man. Et du coup, le fait qu'elle fasse, quand elle était en train de le fabriquer, je me suis dit, est-ce qu'ils vont aller trop loin? Et en fait, non, ils font à peu près le costume qu'elle avait au MIT, sauf qu'elle a un beau truc bien peint par-dessus, quoi. Et un petit peu amélioré, évidemment, mais...
Trouve moche, moi.
Ah, mais moche, oui, bien sûr. Non, mais il est moche, on est d'accord. Mais c'est justement qu'elle n'a pas encore perfectionné ses designs, tu vois.
Ce qui m'a rassuré, c'est qu'elle n'a pas le droit de le garder, donc elle va pouvoir en refaire un autre dans la série.
Ouais, donc l'arrivée de Riri Williams, très très cool, et l'attaque par le FBI et l'attaque ensuite par les Talukaniens.
Ouais. Quand ils arrivent à dos de baleines et d'orques et tout, j'ai trouvé ça vraiment excellent. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'imagine que toi aussi, tu as dû avoir la bande-annonce de Avatar.
Ouais, juste avant.
Avant le film. Et je trouve que... Après, je parle pas de qualité d'effets spéciaux, mais voilà, Avatar m'a laissé vraiment de marbre, et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Tu vois, avec les baleines et tout ça, je trouve que ça a une classe folle, et ça marche d'enfer, quoi. Et quand ils débarquent, et là encore, ils sont encore vus sous l'angle de la menace, où justement, c'est là qu'on découvre qu'ils sont vraiment super forts, que... alors ça j'ai pas très bien compris, elle les plante mais ils se relèvent comme si de rien n'était, mais ensuite dans le film c'est plus trop utilisé, quoi. Ensuite dans le film, quand ils se font planter, ils sont morts, donc...
On sait pas s'ils sont morts ou quoi. Peut-être que ceux-là c'est des soldats d'élite, tu vois, c'est des sortes de Black Panther, des Black Panther de Talukan, tu vois, ils ont tous pris le heart-shaped algae, l'algue du Black Panther, et c'est pour ça qu'ils sont très très forts, potentiellement, peut-être. Parce qu'elle, en Black Panther, Shuri, quand elle se fait planter, elle se relève aussi. C'est pas qu'elle est en forme, tu vois, mais ouais, je sais pas, c'est pas spécifiquement expliqué, mais la menace, c'est la première fois qu'on les voit, effectivement, et je trouve que là, c'est complètement le travail de réalisateur qui fonctionne. C'est que a priori, tu vois des bonhommes bleus qui portent des artefacts mayas qui sortent de l'eau. Tu dis, mais ça peut pas fonctionner, quoi. c'est ridicule. C'est quoi ces plumes sur ta tête ? Ils sont tout bleus, ils ont ils sautent sur des baleines. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et là, ça fonctionne complètement. Je suis d'accord avec toi. Ils sont menaçants, ils sont inquiétants. Tu as peur pour Shuri et pour Okoye, qui est celle qui se bat. Tu as peur pour elle, quoi. Tu te dis, putain, mais... Et la manière dont est filmée la nana parmi les 4 ou 5, le groupe de 4 ou 5, qui dit, OK, moi, je vais... Entre parenthèses, il parlait en ancien maya dans tout le film. En France, les sous-titres sont dans la langue du pays. Donc moi, j'avais les sous-titres en finnois et en suédois. Et moi, je parle suédois. Mais je parle suédois, mais pas... je peux te dire que c'était pas facile à suivre, putain. J'étais hyper tendu, genre, oh putain, est-ce que... Attends, alors là, ça veut dire quoi ? Là, c'était pas facile. Mais j'ai réussi, sauf pour un truc que je te demanderai à la fin. Et donc, elle dit, ouais, bon, moi, je m'occupe des flics, vous gérez, machin, et tu la vois qui part, et c'est filmé de loin, tu vois à peine, genre, deux petits trucs, et tu dis, ah ouais, ok, donc elle s'en charge, c'est terminé. Ok, très bien. Et oui, Okoye, qui est incroyablement puissante et qui réussit quand même à se battre contre quatre d'entre eux, c'est de la bagarre comme on aime, quoi. C'est la bagarre fonctionne, mais à fond, mieux que dans la plupart des autres films de la phase 4. Les chorégraphies n'étaient jamais vraiment super satisfaisantes, à moins que j'en oublie une ou deux, mais dans l'ensemble, je trouvais que tu n'avais pas ce sentiment.
Il y a eu Shang-Chi
c'est vrai.
Aussi, c'est sympa.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que oui, moi, c'est effectivement, c'est la bagarre que j'aime bien. Là, pour moi, c'est ma scène préférée en termes de bagarre, c'est ma scène préférée du film, clairement.
Ouais.
Avec où tu ressens vraiment toute la puissance du colosse en face d'elle qui donne des coups de grosse lance. Et elle, on sait à quel point elle est forte et tu la vois vraiment peiner à reprendre le dessus, etc. Mais en même temps, elle impressionne aussi son adversaire et tout ça, avec le jeu de lance qui plante dans le sol, qui font des choses. Enfin, il y a des idées de combat. C'est vraiment chouette. Et puis ça se finit mal, évidemment. Mais...
Ouais. Et donc, le petit détail que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il lui renvoie sa lance. Tu vois, tu sens ça construit en rien. Enfin, lui, c'est un mec que tu vois quatre fois et qui dit rien, quoi. Il dit trois mots. Mais ça construit un petit peu le personnage. Et par le personnage, tu perçois un peu la personnalité du peuple. Qui, du coup, sont pas juste des bonhommes bleus qui n'ont aucune épaisseur. Donc, c'est un tout petit détail, mais j'ai apprécié, quoi. Bref. Ils enlèvent Shuri et Riri. Évidemment, Ramonda n'est pas super contente. Elle démet de ses fonctions Okoye. Et elle va voir Nakia. Moi, je me suis dit, mais l'actrice, elle est pas là, en fait. Et finalement,
ouais, moi, je me suis posé la question aussi. Ouais.
Et j'étais content de la voir, du coup. Et elle lui demande de l'aide. elle est forte hein, quand même Nakia parce que en 3 jours elle a tout retrouvé, c'est bon.
Ouais. Et j'aime bien ce petit feeling qu'on avait déjà dans le premier justement de film d'espionnage international là où il y a un petit feeling James Bond dans le premier où ils sont dans le casino et là t'as un peu ça avec l'infiltration de Nakia vers Taluka, enfin, déjà la recherche, elle va se déguiser en étudiante et puis machin, etc. J'aime beaucoup cette petite saveur qui vient un peu en annexe de Black Panther.
Ouais.
Sur Nakia, ça marche assez bien. J'aime beaucoup cette actrice.
Et en l'occurrence, elle est kenyano-mexicaine. Je suis sur Wikipédia, hein, je le sais pas de tête.
D'accord.
Et je me suis dit, putain, mais elle parle vachement bien espagnol quand même. c'est incroyable. Elle a eu un super entraînement. Non, en fait, elle est visiblement en partie mexicaine. Donc voilà, ça explique. Lupita Nyong'o. Donc cette scène, et elle découvre le truc caché depuis des centaines d'années. Et du coup, bon, je pense qu'on peut passer à la scène où Shuri est avec Namor et que Namor lui raconte les origines de son peuple et de sa nation. Qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, j'ai cru comprendre que ça avait plutôt fonctionné sur toi.
Ouais. Enfin, après, finalement, les explications en elles-mêmes, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est. Du coup, c'est effectivement cette histoire qui remonte, c'est quoi, à 1400
et quelques.
Ouais, ils vont trouver cette plante issue du vibranium et puis se transformer en homme poisson. Donc c'est pas, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus incroyable. Mais non, moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est justement le twist Maya.
Bah c'est ça. Sur ce personnage, c'est ça qui est important, et sur le reste. Peuple.
Et puis du coup, justement, ils l'ont raccroché à l'histoire, hein, pour donner un peu d'épaisseur et puis pour donner aussi des motivations ou des explications, ouais, sur le règne de la surface, etc. Donc très bien intégré.
Et le fait qu'ils se disent non mais ok, du coup nous on reste en bas, quoi, on veut plus rien avoir avec vous, c'est quoi vos conneries là, c'est bon. Tu vois la division entre le monde de Namor, de Submariner, et la surface, pour le coup tu le comprends, parce que c'est un groupe de Maya qui n'avaient rien demandé à personne, qui ont vu les colons, sans doute espagnols, arriver. Les colons espagnols arriver, et ils se disent... Ouais. Ah non, au début, c'est juste qu'ils étaient malades. Ils ont vu c'est pas parce qu'ils étaient arrivés, les colons?
Oui, mais c'est les conquistadors qui ont répandu des maladies.
Ah oui, c'est ça, bien sûr. Les maladies. Ils prennent le heart-shaped machin, ils s'en vont, et quand ils reviennent... C'est encore pire. Tout le monde a été transformé
réduit en esclavage,
machin. Et du coup, il y a le parallèle avec le Wakanda et l'histoire de l'Afrique, qui est, je trouve, hyper approprié. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire oh mais ils forcent trop machin, mais eux aussi, tu vois, ils ont été victimes de la colonisation, et du coup, ça en fait un truc hyper intéressant, parce qu'ils sont rivaux, ils ont tous les deux du vibranium, avec cette deuxième météorite qui, pourquoi pas, hein, tu vois, là aussi, ça fonctionne, ok, il y en a une qui est tombée dans l'eau, bah, ok, pourquoi pas, dans l'océan. Et ils ont eux aussi du vibranium, donc ils sont un petit peu ils ont une relation de, comment dire, une sorte de fraternité, mais en même temps, ils sont hyper rivaux, ils sont opposés, et ça pose la personnalité de Namor dans les comics, qui est un allié, mais en même temps un ennemi, et parfois il est plutôt avec eux, parfois il est contre eux, et ça pose le truc super bien. Et donc, le fait qu'il remonte pour enterrer sa mère et qu'il trouve les colons, les conquistadors, qui ont réduit tout le monde en esclavage, et il regarde ça avec l'œil du gamin, là, qui regarde ça et qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ?» Qu'est-ce que vous... C'est bon, moi, je veux plus rien avoir avec vous. Je me barre, vous me laissez tranquille, je veux plus entendre parler de vous. Et tu le comprends tout à fait, quoi. Je trouve que ça fonctionne super bien.
Et du coup, bah, mention encore à nouveau du terme mutant, hein, qui réapparaît là.
Oui, quand il explique qu'il était un mutant, c'est le deuxième, hein, du coup.
Ouais, après, c'est ça, oui.
Après Kamala Khan.
Ouais, c'est ça.
Le truc qui fonctionne pas pour moi, généralement, ils y arrivent super bien. Je trouve que l'explication du nom Namor, ça va pas, quoi. Le El Niño sin amor. Tu sais, c'est genre, mais pourquoi El Niño sin amor? Genre, il est. Alors, tu vois qu'il a pas de, il a pas beaucoup d'émotions dans ses yeux, le gamin, quand on le regarde, mais. Ils se sont vraiment dit, alors comment on peut dire
Ils n'étaient pas obligés d'expliquer le nom.
je crois que ce n'était pas nécessaire. Ouais. Ou alors qu'ils expliquent plus que peut-être que c'était plus long. Il y avait une scène plus longue qui expliquait plus à l'origine et que finalement ils l'ont coupé, donc ça passe moins. Mais tu vois, peut-être c'est un enfant qui a perdu son peuple, qui a perdu sa mère, qui a été obligé de se fermer à toutes les émotions et donc il n'a pas d'amour. Peut-être que tu pourrais l'expliquer si tu mets genre 5 scènes là-dedans, mais là c'est juste un conquistador qui fait tout à coup El Niño sin amor, et tu te dis mais De quoi ? De... Ok, bon, si tu veux. Mais bon, voilà, c'est anecdotique, mais... Et oui, moi, je trouve aussi que ça fonctionne super bien. Et ensuite, il montre la ville souterraine d'Atlantis, Talokan, on dit Talokan depuis tout à l'heure, c'est Talokan.
Talokan.
Et est-ce qu'on fait le parallèle avec le monde de Aquaman ou pas du tout, qui était vraiment problématique au niveau des effets spéciaux? Là, ça fonctionne, ça passe.
J'ai pas vu Aquaman, donc
mais il est bien pourtant. Hein. Enfin, il est bien. Ouais. C'est un vraiment. Moi, je l'avais trouvé vraiment sympa hein, pour un film du DCU. Je te le recommande. Mais par contre, les effets spéciaux et la ville sous-marine. C'est le truc qui passe pas du tout, je trouve, dans Aquaman. Là, je trouve que ça va. Ça reste couillon parce que c'est des gens qui ont des bras et des mains, tu vois, des bras et des jambes.
Je pose des questions quand même. Hein. Comment est-ce qu'ils arrivent à travailler le métal Comment est-ce qu'ils arrivent à fabriquer des trucs, etc.
Bah, c'est le vibranium. Tout est grâce au vibranium. L'explication, c'est le vibranium pour tout. Il n'y a pas à chercher plus. Mais oui, donc ça fait 500 ans qu'ils sont sous la mer et Shuri trouve une sorte de comment dire, d'admiration, de compassion, de l'impression pour de tendresse pour la ville. Et ensuite, Namor lui dit « Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer Riri Williams et vous allez arrêter de m'emmerder parce que voilà, c'est comme ça que ça va se passer. » Et elle n'est pas hyper d'accord.
Même plus que ça, il lui demande assez clairement d'aller ravager le reste du monde avec lui, quoi.
Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'il dit on va attaquer la surface. Et elle n'est pas trop, trop pour.
Mais en même temps, on sent que, voilà, clairement là, on sent qu'il y a, ce penchant qu'elle peut avoir justement par sa colère, par pas mal de choses hein, qui ont été un petit peu construites au fil du film. Et là, c'est le moment où justement. Finalement, elle va devoir effectivement faire ce choix de un petit peu de qu'est-ce que voilà, comment est-ce que je gère ma colère et ma rage et le deuil, etc. Quoi.
Et avant qu'elle puisse vraiment prendre sa décision, il y a Nakia qui arrive et qui décide. Et entre parenthèses, je trouve que l'acteur dont j'ai encore oublié le nom, qui est pas facile, mais José Tenor Huerta Mejía. Il est mexicain, donc peut-être Mejía, est très menaçant. Et encore une fois, physiquement, il n'est pas très imposant, mais avec son truc dans le nez que je trouvais ridicule au début, et qui finalement, ça passe, et ses boucles d'oreilles un petit peu couillonnes, au fur et à mesure du film, tu finis par t'y habituer et par le trouver imposant et menaçant. Tu vois, il joue super bien cette frontière entre le très amical et l'impressionnant. Parce qu'il est amical, gentil et avenant, tu vois, avec Shuri, et il lui montre sa ville, il lui parle gentiment, il lui explique des trucs. Et généralement, ce genre de personnage, quand on veut les rendre menaçants, à un moment, on lui fait... transformer sa personnalité, et ça se voit dans son visage, dans son expression, dans ce qu'il dit. Là, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il explique juste ses plans, et tu sais, par ce qui s'est passé avant, qu'il a de quoi les réaliser, c'est pas du flan. Et le simple fait qu'il exprime ce qu'il veut faire, donc détruire la surface, il n'a pas besoin de ne plus être souriant, de ne plus... Il explique simplement, et ça fonctionne, et tu te dis... Et tu es impressionné, tu as peur, tu sens que tu te... Si tu étais en face de lui, tu vois, tu aurais besoin de te... comment dire, to retreat into yourself. Genre, tu te fanes un peu et tu fais, oula, non, mais je veux pas qu'on me voie, je veux... Ok, j'ai peur, quoi. Alors qu'il fait rien qui fait vraiment peur ouvertement. Je trouve que ça fonctionne super
bien. Il a un peu cette attitude, je sais pas, de... C'est rien de personnel, hein, mais moi, d'après mes calculs, il faut tuer Williams. Ouais. Et puis, si vous ne voulez pas, on n'aura pas le choix. On va tous venir tous vous tuer, vous massacrer. Etc. Enfin, il y a vraiment un petit... Puis, il le dit de manière un petit peu limite, un peu nonchalante. Quoi. Enfin, c'est... Ouais. Et alors, donc ouais, je trouve que, alors moi pour le coup, hein, ce personnage-là, depuis sa première apparition, hein, même, moi, j'ai pas été gêné, trop gêné par les petites ailes. Je les avais vues dans la bande-annonce, et c'est à ce moment-là que j'avais eu un petit peu un.
Ouais, un oui, moi, je crois que je l'avais pas vu, j'avais oublié.
Je m'y suis fait très très vite derrière, et j'ai, voilà, moi, tout le design du personnage, son interprétation, je le trouve vraiment trop trop bien. Et effectivement, bah, cette séquence où on s'attendait pas à ce qu'il soit si accueillant, où il fait le tour du propriétaire, ça se finit sur des menaces dites quasiment gentiment, quoi. Donc, ouais. Des menaces, mais des menaces très sérieuses. Et effectivement, tu sens que, en fait, elle avait baissé un peu sa garde suite à ces échanges-là, et puis elle se rend compte que, ouais, en fait, non.
On n'est pas là pour rigoler, tu vois.
Super dangereux, ouais, c'est ouais. Super dangereux, faut, voilà.
Ouais. Et donc, après ça, Nakia sauve Shuri et Riri, elle s'enfuit, et Namor attaque le Wakanda dans une attaque qui se passe encore plus mal que je pouvais imaginer. Moi, je pensais que le Wakanda pourrait se défendre un minimum. Bon, c'est une attaque surprise, etc. Mais il montre la force, la puissance de Talokan, et j'ai trouvé justement ces scènes-là, on les évoquait tout à l'heure, hyper réussies là encore, quoi. Cette attaque, il a une maîtrise. Autant les grosses scènes de CGI et de combat dans le premier étaient ratées, enfin particulièrement la dernière, autant ici, on est dans le top niveau de ce que peut faire le MCU au niveau de l'action, quoi. T'es d'accord. Et c'est bon, ouais, là qui fonctionne.
Et puis là, bah, du coup, là, c'est là qu'on voit effectivement ce que c'est faire Namor, quoi, avec cette ouais. espèce d'agilité, ouais, il virevolte dans les airs. Enfin, c'est super. Et puis voilà, il y a des chouettes idées, justement, la manière dont il se déplace, qui marche super bien, etc. Les grenades d'eau, que je trouve géniales. Voilà, l'eau qui monte au début, machin, etc. Non, c'est ouais, la séquence entière, elle est vraiment vraiment super efficace. Et puis pareil, on retrouve ce Namor super menaçant là qui débarque, tu sais, qui plante sa lance dans la vitre face à la reine, etc. Ouais, toute cette séquence, alors, là, on sent que c'est la séquence importante, hein, du film, j'imagine, clairement. En termes de budget, c'est celle qu'ils ont montré dans les bandes annonces, en fait, c'est un peu ces séquences là donc là j'étais vraiment accroché à mon siège pour le coup. Et puis ça se passe pas bien pour nos héros, etc. Donc c'est vraiment...
Je veux qu'on passe un tout petit peu de temps sur cette scène en particulier entre Namor et Ramonda. Bon, d'une part, je ne vais pas revenir sur l'excellence de la visualisation cinématographique des pouvoirs, des super-pouvoirs d'un super-héros de comics. C'est hyper important. Réussir à bien le rendre au cinéma, c'est pas facile. Et c'est essentiel, et c'est sur ça aussi, en plus des personnages, que s'est construit le MCU. Ils réussissent à bien rendre au cinéma les super-pouvoirs les plus étranges et parfois ridicules. Namor, c'est sans doute le personnage le plus difficile, ou l'un des personnages les plus difficiles à rendre badass. C'est hyper dur. Namor, c'est un couillon en maillot avec des ailes sur les chevilles et des oreilles pointues qui fait le fier et qui sort de l'eau quand on emmerde les poissons, quoi. C'est hyper dur. Et cette scène le justifie complètement. La scène d'action, évidemment, et en plus, la scène avec Ramonda, qui appuie sur un truc qu'on avait déjà vu auparavant, c'est-à-dire son sérieux et son aspect menaçant, parce que tu as là le travail d'un réalisateur qui prend le temps de mettre... Il prend beaucoup son temps, d'ailleurs, Ryan Coogler. Il prend beaucoup son temps. Le film est long, comme tu l'as dit, mais c'est hyper nécessaire pour que tout se mette en place de manière crédible. Mais il prend le temps de mettre Namor en face de Ramonda, Ramonda qui ramène Riri un petit peu derrière elle, genre, qu'est-ce qu'elle peut faire, Ramonda, elle peut rien faire. Et pourtant, elle protège Riri de manière presque pathétique, quoi. Mais elle la met derrière elle, et Namor qui a planté sa lance. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être fini, OK, il va partir. Donc, c'est fini, et puis tout va bien. Ramonda et Riri, elles sont, il n'y a pas de problème. Et quand il revient et qu'il fait effectivement exploser la salle du trône du Wakanda et que, bon, je la fais courte, finalement, Ramonda meurt, c'est pas que j'y croyais pas, mais tu dis, Shuri est dans une situation, est dans un deuil, est dans une situation psychologique tellement fragile déjà, ils vont pas en plus faire mourir le dernier membre de sa famille, quoi. Et donc, tu ne l'envisages même pas. Et quand elle meurt et que tu... Déjà, elle meurt, c'est un petit peu surprenant, mais tu comprends les conséquences que ça a sur Shuri, parce que tu comprends que son père est mort, son frère est mort, sa mère est morte, toute sa famille directe l'a quittée, elle n'a plus personne. Et c'est un moment, évidemment hyper fort. Quand je parlais de construction des personnages, c'est leur imposer des épreuves qu'ils vont devoir surmonter. Là aussi, parce que, comment dire, on est déjà affecté par le deuil réel que tout le monde ressent pour Chadwick Boseman / T'Challa. Et tu le ressens vraiment. Et tu ressens la tristesse de l'équipe et des personnages et de Shuri. Et à ça, tu viens ajouter en plus la tristesse fictionnelle de la fille qui perd sa mère, qui était le dernier membre de sa famille. C'est hyper lourd, quoi, pour le personnage. Et t'as quelques scènes, là encore, où les choses se calment et où Namor dit « Bon, je reviens dans une semaine et là, ça va péter. » Et c'est un truc qui donne un poids complètement fou à ce film. Enfin, complètement fou, c'est pas non plus que... Saving Private Ryan non plus, mais dans le cadre des films pop du MCU, bah ça pèse vachement. Je t'ai tellement convaincu que tu es... mon discours éloquent.
Ouais, je sais pas si je suis... Oui, c'est un moment quand même qui est super fort pour Shuri. Hein. Après, bon, je trouve que ça reste...
Est-ce que
classique, quoi.
J'ai une question personnelle. Ouais, est-ce que tu as tes deux parents encore ? Ou je sais pas quel.
Oui, moi j'ai mes deux parents.
D'accord. Je me demande si c'est pas le genre de truc qui t'affecte un peu plus quand tu as déjà vécu, tu vois, un petit peu. C'est comme toujours ces histoires. C'est comme, enfin, quand on est jeune, on regarde des trucs d'horreur et ça nous fait marrer. Et parfois, quand on grandit et quand on vieillit, c'est un petit peu plus difficile à regarder quand on a vécu des trucs parce que ça fait référence à des choses qu'on a vécues. Je me demande s'il n'y a pas un tout petit peu de ça là-dedans.
Ouais, c'est possible. Oui, et du coup, en plus, alors, et là, moi, c'est là où ça, en fait, c'est là, le moment où cette séquence, où ce ressort narratif a fonctionné sur moi, c'est justement où juste après, bah, du coup, après l'attaque, il y a à nouveau la cérémonie, la même que tu as eu au début.
Non, mais c'est ça. C'est là que tu ressens le poids du truc, quoi.
Et du coup, la symétrie fonctionne super bien. Et puis derrière, effectivement, bah, là, c'est là où on a poussé... Shuri au bout du bout et où du coup elle est en train de devenir Anakin Skywalker.
C'est ça. Non, mais c'est ça qui est. Peut-être que j'aurais dû l'expliquer comme ça. Tu fais bien de rappeler cette deuxième scène d'enterrement parce que elle commençait un tout petit peu, tu te dis, à sortir la tête de l'eau. Elle rigolait avec Okoye aux États-Unis. Elle avait une pote Riri et on lui remet un coup de massue sur la tête. Juste un an et quelques après la mort de son frère, avec la mort de sa mère, tu vois, c'est enfin bon, bref, on a compris. Et donc, elle se dit, bon, ben oui, I will turn to the dark side, et elle commence à essayer ce truc hyper malin aussi, qui fonctionne complètement avec les fibres de plantes infusées par le vibranium, qui lui permettent de compléter sa heart-shaped herb artificielle et du coup elle devient
jusqu'au bout. Donc, alors c'était évident que c'est elle qui allait la prendre, mais en même temps, je me disais, et si c'était Nakia qui.
Ouais, ouais, on se demande.
Je posais un peu rapidement la question.
Oui, parce que elle devient reine du coup du Wakanda, mais c'est pas forcément le roi qui est aussi le Black Panther, je crois. Je me demande si c'est non.
Les rôles sont séparés.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pas ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais oui, effectivement, c'est elle qui le prend.
Et du coup, et ça, c'est ce que j'attendais vraiment beaucoup. C'est justement, le fameux plan astral des ancêtres là, qui allait apparaître pour le nouveau Black Panther. Et voilà, j'espérais vraiment secrètement que ce soit justement Killmonger, parce que
c'est vrai.
Ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup du premier film. Et du coup, bah, c'était bien ça. Et c'était et ça marche encore une fois super bien, quoi. Je veux dire c'est pas juste qu'ils ont mis Killmonger pour mettre Killmonger, c'est ils te l'expliquent parce que justement elle est en train d'emprunter ce chemin là de la vengeance et de la guerre contre le reste du monde, etc. Et du coup, c'est là où on arrive sur ce chemin-là où elle est en train de... elle doit choisir, mais elle a choisi, quoi. Elle a choisi, ça y est, c'est bon, on va tuer l'autre. Et puis après, derrière, on ne sait pas ce qui se passera, mais clairement, elle est sur une route un peu... un peu difficile, quoi.
C'est tellement malin. Et on en parlait même avant, dans des épisodes précédents, quand on parlait du programme. Est-ce qu'il allait revenir, Killmonger, ou pas? Et moi, j'avais cru entendre quelque part un rapport du fait que oui, il allait être dans le film ou pas, et puis on n'avait plus rien entendu. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement malin, ça fonctionne pour l'histoire, ça fonctionne pour le personnage, ça fonctionne pour le clin d'œil, pour le fanservice.
Pour le fanservice. Là, c'est du fanservice intelligent, quoi.
Mais ouais, qu'évidemment, il ne pouvait pas ramener Killmonger autrement. Et enfin, ils auraient pu, mais ça aurait été débile, quoi. Et là, c'est tellement parfait. Et en plus, pour le personnage, tu vois, elle, tu sens que c'est ce qu'elle veut au fond d'elle, mais qu'elle n'arrive pas à accepter. Elle se dit, mais où est ma mère? Où est mon frère? Où est mon père? C'est eux que je voulais voir, c'est pas toi. C'est à cause de toi que tout a dégénéré. Parce que s'il n'avait pas brûlé les Heart-Shaped Herbs, elle aurait pu sauver son frère, par exemple. Et du coup, ça ajoute au conflit interne, c'est parfait. Et donc, elle choisit le costume de Black Panther, de Killmonger, et pas celui de son frère, parce que, quelque part, il a touché, comme il le dit, mais t'y croyais pas à ce Astral Plane, donc c'est pas pour ça que tu l'as fait. Et donc, elle choisit le costume.
D'ailleurs, il y a un petit propos sur cette opposition entre les traditions et la science, les rituels, etc., à plusieurs reprises. Et c'est vrai que je pensais que ça allait quelque part, mais en fait, non, c'est juste qu'elle a... C'est juste pour être en cohérence avec son personnage à elle, ils ont décidé de complètement embrasser le fait que non, c'est une scientifique, donc elle se met dans son labo, elle prend la fleur, et c'est pas du tout comme ce qui avait été montré dans le premier, où ils doivent le mettre sous du sable chaud et machin, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant.
Et du coup, ils devisent leur plan pour attaquer Talokan. Et le plan, c'est qu'il faut mettre un gros sèche-cheveux sur Namor. Parce que du coup, il perd ses pouvoirs quand il a chaud, quand l'eau s'évapore. Donc,
il perd par la peau. Voilà.
Et non, enfin, il a besoin d'eau, comme dans les comics. D'ailleurs, il a besoin d'eau et c'est de l'eau que viennent ses super-pouvoirs. C'est comics logique, cherchez pas à comprendre. Et donc, ils attaquent avec leur méga vaisseau. Et on n'a pas tellement parlé de M'Baku, mais il reste l'un de mes Wakandais préférés. Hein. M'Baku, il est vraiment formidable.
Ouais, j'adore ce personnage à tout temps. En espèce de massif et puis qu'on avait déjà deviné plus sympa qu'il n'y paraît dans le premier, quoi, et là il est sur cette continuité là j'espère qu'on le reverra à l'avenir. Ça a l'air de se profiler, mais
ah bah oui, mais là ouais, c'est
que j'aime beaucoup, très classe.
On peut, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de la fin maintenant, mais non, on y arrivera tout à l'heure, mais on reparlera de M'Baku. Et donc, ce combat, c'est encore grosse bataille, CGI battle. T'en as pensé quoi de cette deuxième ou troisième?
Alors, pour le coup, là, je suis beaucoup moins... Voilà, c'est un peu le truc de trop.
Ah ouais?
De mon côté. Ouais, alors en fait, je... Là, pour le coup, je trouve qu'on tombe quasiment dans le côté CGI... Un petit peu nul dans le sens où c'est censé être vraiment la méga guerre et tout, mais on a l'impression qu'ils sont pas si nombreux. Le bateau, je le trouve pas super réussi en fait, leur espèce de bateau qui est complètement invisible et qui apparaît etc. Alors il y a des choses que je retiens hein, qui sont sympas. Il y a alors, toujours les Talokan sur leur baleine, moi ça me
jamais. Hein. Toi t'aimes bien
évidemment les Dora Milaje qui descendent en rappel etc. Mais en fait là où je dis que c'est too much, c'est les, ça y est, il y a les super armures de Power Rangers pour tout le monde. C'est pas même le combat finalement entre Shuri et Namor, je le trouve un peu mou en fait. J'ai pas trouvé ça super intéressant, alors que justement je parlais du combat d'Okoye tout à l'heure. Donc pas catastrophique, mais c'est vraiment moi je trouvais que c'était dommage quoi. Je trouvais que c'était redescendre d'un cran en termes de qualité de combat etc. Par rapport à ce qu'on avait eu avant. Et puis ça faisait un petit moment qu'on était en salle, là ça commençait un peu à faire long, et c'est vrai que cette scène je la trouve un petit peu à rallonge quoi.
D'accord. Ouais, je suis pas complètement sur ta ligne, mais je suis pas complètement en dehors non plus. Je trouve qu'il est moins réussi que le combat du Wakanda, c'est vrai. Je trouve aussi que les Power Rangers du Wakanda, enfin Okoye et sa copine là, ça fonctionne pas super bien. Je les trouve pas folles. Et puis, elles font rien, en plus, dans le combat. Elles volent un petit peu, et puis voilà. Ouais. Bon, Riri Williams, j'ai déjà dit, moi, je trouve que c'est bien. Il aurait fallu, en fait, que les Power Rangers, c'est quoi? C'est les Angels, machin, soient mieux. Je sais pas comment, mais démerdez-vous. Genre, mes notes de production, tu sais, c'est... Non, faites-les mieux, quoi. Faites-les plus cool. C'est ça.
Ouais, il y a le côté vous restez à l'écart et je vous dirai quand intervenir, et en fait, on sait pas pourquoi.
Ouais. Un des trucs que je note quand même sur Shuri Black Panther, c'est que c'est quand même une brindille cette nana. Hein. Elle est. Alors, on s'en fout, tu vois, on comprend. Je suis pas en train de dire ah, oh, mais elle devrait pas avoir de pouvoir comme un incel de base, mais. C'est ça le vend pas hyper bien vu comme elle est maigre. Et bien on s'en fout, elle a mangé le Archite Herbs et c'est des super pouvoirs.
Elle a gagné un bras de fer avec M'Baku aussi. Hein.
C'est ça, quand même. mais tu vois, on comprend qu'elle a des cellules surnaturelles, on s'en fout. Mais c'est juste que elle est vraiment, vraiment super maigre.
Tu te dis quand même heureusement qu'elle a inventé son armure qui absorbe les chocs. elle se prend des grosses patates.
C'est vrai. Mais ouais, bon, le combat, il est... Je dirais que c'est... Je suis d'accord, parce que le combat du Wakanda... Enfin, la bataille du Wakanda était tellement bien que celle-là, du coup, elle est juste normale. Mais ça m'a pas gêné plus que ça. Mais voilà, bon, ça passe. Et puis, au final, Shuri voit sa maman qui lui parle depuis le Ancestral... Realm? Oui. Et qui lui dit « Montre-lui qui tu es vraiment. » Et oui, et là, elle hésite et elle se rend compte qu'elle ne peut pas passer du côté obscur, contrairement à Anakin. Et elle lui offre un deal qu'il accepte. Et le combat se termine à ce moment. Et ils reviennent et elle fait son Wakanda Forever. Et on arrive à la fin du film.
Ouais. Pourquoi? On a juste, alors je profite qu'on est arrivé au bout de la ligne pour juste rementionner un peu ce personnage dont on n'a pas parlé, qui est De Fontaine.
Oui.
Que j'ai trouvé excellente.
Elle est bien dans celui-là.
C'est mon intervention préférée. Ouais. C'est ça. Elle est vraiment géniale. Alors, elle est toujours un peu ambivalente. Là. Elle fait semblant d'être d'être ce qu'elle est là. Alors, j'ai mal compris où elle est, où c'est l'ex-femme de...
Ah oui, complètement, ouais. C'est l'ex-femme de Ross, ça, ouais. Okay. C'est bien trouvé, ça. Ça l'intègre, c'est marrant. Directrice du CIA et de la CIA et ex-femme de Agent Ross.
J'ai trouvé beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sympa comme personnage là, cette fois-ci, qu'à l'habitude. C'est un petit peu caricatural.
Je suis d'accord.
Ils essayent de faire un petit peu la nouvelle Nick Fury.
Ouais, là, elle a beaucoup plus son identité. Je trouve que ça fonctionne beaucoup ouais. mieux. Ouais. Bon, c'est un personnage très annexe, mais c'est juste que ça fonctionne.
Oui, bien sûr.
Et du coup, elle a arrêté son ex et Okoye va le récupérer à la fin du film. Justement, le truc que je voulais te demander, c'est quand il parle avec Namora. Elle s'appelle bien Namora. Hein, c'est la cousine de Namor. Ouais. Qu'est-ce qu'elle lui dit sur le deal que lui a offert Shuri ? Parce que
elle lui dit, elle est deg, elle aurait voulu se battre comme une guerrière à côté de son amoureux. Donc c'est ça quoi, elle lui reproche d'avoir capitulé en fait. Elle dit on aurait dû se battre jusqu'à la mort et puis c'est tout en fait. Tu vois,
d'accord.
Et après, je passe à sa réponse, mais du coup, lui dit non, mais ça va bien se passer pour nous parce que du coup, maintenant, bah, et ça c'est vrai, hein. La surface ne sait toujours pas que Talo Khan existe. Et donc, vont toujours penser que c'est le Wakanda qui a attaqué le bateau, qui a attaqué aussi sur le dans le Massachusetts. Et du coup, il se dit, ils vont être tellement pressurisés par les autres surface, pays qu'ils vont finir par venir nous demander de l'aide. Ah. Et on sera là en position de force en termes de... Voilà, de...
D'accord. Donc, intéressant. Il est pas bête. El niño sin amor. il est sin amor, mais il en a dans la cabeza. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est la fin. Je crois que du coup, c'est la fin du film avant la scène post-crédit. Riri.
Il y a M'Baku, comme Boston. Tu disais, M'Baku.
Oui. Mais du coup, c'est M'Baku qui va devenir le roi.
En tout cas, il propose un défi. Donc, si personne veut l'affronter, ça sera lui le roi, quoi.
Ouais. Et a priori, bon, il y a certainement des gens qu'on n'a pas vus, mais a priori, pour affronter M'Baku, faut se lever tôt le matin, parce que il est quand même pas. C'est pas une brindille pour le coup.
Ouais. Et puis, je pense qu'il est. Enfin, en plus, maintenant, il est montré comme légitime parce qu'il a. Sauver la mise plusieurs fois au Wakanda en les accueillant dans les montagnes et les machins et tout.
Et du coup, j'aime bien le fait que Shuri se dise « Non, moi, je suis une scientifique. Déjà, je suis Black Panther. J'ai assez d'emmerdes. Je ne vais pas en plus être la reine du Wakanda. M'Baku, t'es mon pote. On s'entend bien. Je te fais confiance. Toi, vas-y. Moi, je vais aller faire des trucs. J'ai des trucs à faire avec Nakia. Et voilà, quoi. » Et j'aime bien que ça soit pas genre imposé. Bah justement, le Black Panther, j'imagine qu'elle reste Black Panther, mais Black Panther et la reine du Wakanda et machin. Donc, je trouve ça pas mal, quoi.
Ouais, et du coup, scène unique, scène milieu de générique. Du coup, il n'y en a pas eu d'autres, je crois.
Ouais.
Et t'en as pensé quoi ? Alors moi, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid.
Ah ouais ?
Ouais, il y a eu des applaudissements dans la salle, là, tout le monde était là.
Ah ouais, c'est vrai. En fait,
ouais, j'ai trouvé... Je m'attends...
Alors,
j'étais surpris, hein, mais...
Ouais, ça t'a pas particulièrement plu. Moi, j'ai trouvé ça bien. Alors, d'une part, le fait qu'on a la résolution, finalement, de l'arc de Shuri, qu'elle réussit enfin à faire son deuil, elle brûle la robe de cérémonie, là.
Oui, c'est ça.
Et donc, elle accepte enfin et tu sens qu'elle va pouvoir dépasser ce problème, ce conflit, enfin, cette difficulté. C'est pour moi, évidemment, la partie la plus importante de cette scène.
Voilà, c'est ça.
Et ensuite, bon, bah, y a le petit truc qui est parfait pour une scène mid-credit. À la limite, tu vois, ils auraient pu la passer en post-credit, genre couper la scène en deux, mais c'est le post-credit. Et moi, je trouve ça vachement bien parce que le fait qu'on ait quand même un T'Challa, Ça veut dire qu'à terme, tu vois, dans 10 ans, 20 ans, on pourra quand même avoir T'Challa Black Panther, ce qui n'est pas obligatoire. Tu vois, à un moment, on n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas moi, le fils de Tony Stark qui s'appelle aussi Tony pour que Tony ne meure jamais, comme dans les comics, tu vois. Ce n'est pas que ça, c'est nécessaire. Mais l'histoire du personnage T'Challa a été du coup interrompue par la mort de Chadwick Boseman. Et ça serait dommage... Même si je peux comprendre, on a eu notre T'Challa et voilà, et on n'a pas besoin d'un autre T'Challa. Peut-être qu'ils auraient dû l'appeler autrement. Je sais pas, il y avait son père, c'était T'Chaka, et lui, c'était T'Challa. Ils auraient pu l'appeler T'Chama, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est pas mal qu'on continue à avoir un T'Challa dans le MCU, qui est un personnage fort des Avengers, etc., et des comics. Et du coup, bah, il va pas revenir tout de suite. Hein, mais on sait qu'il y a quelque part un T'Challa qui pourrait être destiné à devenir le Black Panther dans 5 ans, 10 ans, et que c'est, ça s'explique. Et en plus, ça colle tellement avec le fait que Nakia n'ait pas voulu, a disparu, tu vois. Tout à coup, on le comprend encore plus que ce qu'elle disait au début. Et donc, moi, je trouve que là encore, ça s'emboîte super bien et c'est justifié et ça fonctionne, quoi.
Ouais. Alors moi, il y a un truc qui m'a semblé bizarre parce que du coup... tomber quelque chose. Il y a cette discussion du coup entre Nakia et Shuri, et Shuri lui demande si du coup sa mère était au courant, tout ça quoi. Elle lui dit oui, elle l'a déjà vu et tout ça. Et du coup, je trouve que ça affaiblit un petit peu quand même cette absence un peu de Nakia parce que.
Non, mais elle l'a vu quand elle est allée à Haïti, je pense.
Enfin, ouais, là, mais du coup, elle vient quand même demander à donc la reine, elle vient demander à Nakia d'aller risquer sa peau.
C'est pour sauver sa fille.
Espionnage machin. Ouais, mais il y a son petit-fils. Tu vois, je veux dire.
Non, mais d'accord. Elle reproche quand même.
Ouais, non, mais bon, voilà. Moi, ça m'a paru un petit peu bizarre. Non, mais un peu out of nowhere. Ok. Ouais.
Elle vient. Regarde, Ramonda vient de perdre son fils il y a un an. Son fils. C'est le genre de truc, c'est ce que tu perdre un enfant, c'est pas naturel. Tu vois, tu es censé partir avant tes enfants. Elle a perdu son fils. Et sa fille est aux mains de ce tyran sanguinaire, emprisonnée, et elle a aucun autre choix, aucune autre solution que de se dire bon, il y a que Nakia qui pourra les infiltrer. D'ailleurs, elle avait pas tort. Moi, évidemment qu'elle va demander, elle va faire tout ce qu'elle peut pour sauver sa fille. Mais, et puis le petit T'Challa qu'elle lui a, et peut-être qu'elle lui a montré après, mais le T'Challa, au pire, tu vois, elle le prend au Wakanda et elle l'aura quand même. C'est pas qu'elle a dit vas-y avec ton fils, tu vois. Mais
ouais, je ne suis qu'à moitié convaincu.
Bon, d'accord. Écoute, je t'aurais convaincu sur certaines choses, je t'aurais ému sur certaines choses, mais pas sur celle-là.
J'ai noté qu'il avait un nom français et que c'était bien français de choisir un nom de jour férié.
Non mais c'est pas un personnage historique parce qu'elle dit ton nom est fort et machin, je connais pas du tout, mais
Toussaint, il doit y avoir des Toussaints, mais non, ouais.
Bon, ok. Et oui, il est à Haïti, donc T'Challa, fils de T'Challa, ok. Moi ça me va.
Ouais, donc conclusion de la phase 4, hein, du coup.
Ouais.
On repart, je pense, derrière. Le prochain, c'est Ant-Man. Du coup, on repart là dans des délires un petit peu dimensionnels et tout ça. Ouais, on repart dans autre chose.
J'ai pas vu le trailer de Ant-Man, donc là, je suis complètement blind.
Tu l'as vu, toi ? J'ai vu le teaser, là, le teaser trailer. Qui en montraient beaucoup trop et j'ai pas...
D'accord. Bon, j'ai bien fait de pas le voir. Bon. On a quand même The Guardians of the Galaxy Holiday Special avant.
Ah oui.
Qui arrive là en décembre. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais oui, la phase 4, a priori, est terminée. Commencez avec le très décevant Black Widow. Au final, la phase 4, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus, mais Black Widow, Shang-Chi, Eternal, Spider-Man, Doctor Strange, Thor et Black Panther, c'est très moyen, mais c'est pas complètement catastrophique. Moi, il y a quand même 3 films dans cette phase que j'ai vraiment aimés, et puis quelques-uns qui étaient sympas, et 2 qui étaient très décevants. Bon, c'est... ça va.
Ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça pas si mal en fait. Hein.
Ouais.
Moi j'ai
Il y avait des moments où on a eu peur, mais la fin.
Eternal. Ouais. Voilà, je trouve que en plus il y a eu toutes les séries et tout ça, donc Moi, je suis assez satisfait hein, globalement. Alors oui, il y a des choses un petit peu nulles, on va le dire, mais voire assez mauvaises. Mais en fait, avant aussi, on avait des choses assez mauvaises et je trouve que globalement, on s'est bien amusé quand même.
D'accord. Bon, bah écoute, peut-être qu'on fera un bilan à un moment un petit peu plus complet. Mais d'ici là, le prochain rendez-vous de Super Laser Punch, ça ne sera pas la semaine prochaine, mais celle d'après pour la conclusion de Andor. Ça va être un moment important parce que est-ce que ça continue à être la meilleure chose faite sur Star Wars de l'histoire ou pas ? Et puis, conclusion quand même, on n'a pas vraiment conclu, mais Black Panther Wakanda Forever, moi j'ai été vraiment, vraiment très, très agréablement, presque surpris. Et je suis très content que le MCU puisse faire potentiellement un comeback. C'est quand, comment il s'appelle, le Quantumania ?
C'est début d'année, c'est en mai, un truc comme ça ? Je pense que c'est ça le timing.
D'accord. Tac, je cherche les dates. Février ! Bon, bah écoutez.
Ouais, c'est très vite, hein ?
Très vite, ouais, très vite. Très bien. Ouais. Merci, Johan.
Merci.
On se retrouve dans 2 semaines pour Andor.
Ouais, ça marche. En attendant, je vais m'endormir. Rattraper ma nuit de sommeil.
Super. On te retrouve donc sur Twitter. On met le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. On se retrouve aussi sur le Discord de la communauté. Si vous voulez venir nous parler de Wakanda Forever, il y a un channel spécialement dédié aux épisodes de Super Laser Punch, donc qui est public, hein, vous pouvez venir, que vous soyez patriote ou non, des autres émissions. Et puis, voilà, c'est tout. On se retrouve dans 2 semaines. On vous fait de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.